si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Salut, puis sommes vikings, sit morier, in dem Wunderporta, tos immer wieder wie immer mit meiner Sendung, mor mira plätzele, mit viel Freit, levi grossi orleple, vom Sender Judaïka. Toujours un peu de Muttersprache, de dialecte, dans le texte, ça chatouille nos orteils, nos racines et distille du bien-être dans le dedans de soi. Et ce bon matin de fin mai, j'ai invité une sommité de la chirurgie, un chef de clinique bienveillant, natif du Grand Sud, habitué au soleil et aux accents, chantant. Vous débarquez, monsieur, il y a bien longtemps, en voiture à Strasbourg, avenue des Vosges. En plein mois de novembre, il fait gris, froid, le ciel semble suspendu entre bruine et brouillard, le moral un peu vacillant, presque dans les soquettes. Et puis au détour d'une vitrine illuminée, une pâtisserie parfumée à la cannelle, un Quetschelkäse changea le cours de votre vie, docteur. Une tarte au quetsch, quel bonheur! Bien le bonjour, docteur Philippe Mesraride. Je suis très heureux de vous rencontrer ici, devant cette forêt de micros. Comment allez-vous, docteur?
Eh bien, je vais très bien, je vous remercie. Et j'apprécie votre invitation. Je vous remercie de m'avoir permis... D'échanger un petit peu avec vous sur cette belle région alsacienne et sur l'expérience de 40 ans que
j'ai. On aura l'occasion d'en parler, c'est un plaisir partagé, docteur. Alors, quel privilège de partager cette émission avec vous, docteur. J'ai juste envie de vous demander, comment allez-vous, docteur ?
Je vais très bien, je vous remercie.
Dites-moi 33.
33.
33. 33.
La semaine dernière, ça aurait été un peu plus difficile.
Alors, si vous n'êtes pas trop tendu ce matin, ça va ?
Non, ça va.
Parce que j'ai des bêta-bloco dans mon sac, si vous avez besoin.
Non, j'en ai pas besoin. Vous savez, la pratique sportive permet de ralentir l'activité, l'activité cardiaque et donc de ralentir le rythme.
Se sentir bien.
Pas besoin de bêta-bloco.
Ben, c'est très, très bien. Alors, pour commencer votre papotage, docteur, nous allons rembobiner votre vie avec mon jingle. Écoutez un petit peu, ça va vous rappeler quelque chose. Oh, il est à l'envers. En fait, c'est pour parler de votre enfance. Quel enfant étiez-vous, docteur ?
Ben, moi, j'étais un enfant marseillais, relativement studieux. J'aimais beaucoup la lecture. Je suis l'aîné d'une famille de 3 enfants. J'étais plutôt renfermé. Et
turbulent un peu quand même ?
Turbulent, non, parce que j'ai toujours été...
Sage.
Très sage. J'ai toujours l'habitude d'être le premier de sa classe.
Wow.
C'est pour ça qu'en ce moment, si je prends des cours de langue et que je ne travaille pas, je ne suis pas très, très content de mes performances.
Donc, vous étiez bosseur, vous étiez un peu très appliqué, j'imagine, avec des notes excellentes.
J'essayais.
Un peu rêveur quand même ?
Très rêveur, peu sportif, alors que ça a bien changé maintenant. Je m'évadais dans pas mal de littérature qui parfois faisait peur à mes parents, que ce soit à l'époque, c'était l'époque des bandes dessinées. J'ai tout lu San Antonio, j'essayais de tout lire Freud, lire Freud et de tout lire Jung, mais parallèlement, je lisais San Antonio et ça inquiétait papa-maman.
Et des bandes dessinées peut-être ?
Les bandes dessinées qui, soi-disant, ont été un risque pour la culture enfantine.
Oh, quand même.
Ouais.
Vous lisiez quoi ?
À l'époque,
c'était Tintin ?
C'était 1970, 75.
Oui.
Hein.
Ouais.
Tintin, c'est pas tout à fait ça. Je préférais quand même qu'il me faisait rire aux éclats, que ça soit Astérix, Lucky Luke, Gaston Lagaffe.
Ah, c'était extraordinaire.
Me fait exploser de rire. Achille Talon, que je relis actuellement avec beaucoup, beaucoup de plaisir, parce que ces humoristes-là étaient des fins observateurs.
Franquin était extraordinaire.
Franquin,
coup de crayon, mais
absolument.
Avec le chat, la mouette l'éditeur là, qui venait tout rouge, Demesmaeker qui cherchait
à signer ses contrats.
C'était extraordinaire.
Les vignettes explosent. Ah, quand vous lisez, quand vous voyez l'écriture de Franquin, vous avez l'impression d'entendre les bruits,
absolument.
Voir les explosions.
Et puis ce Gaston Lagaffe qui était...
Greg se débrouillait pas mal aussi dans Achille Talon.
Ouais,
mais Franquin, à mon avis, c'est le maître.
Ah oui, absolu. Pareil, j'ai aussi toute sa collection chez moi et je ne peux pas m'en passer. Ouais. Et j'aime le relire et les donner à mon petit-fils.
Et je fais même des blagues au bloc opératoire parce que je dis souvent à mon instrumentiste, voyez, Moiselle Jeanne, comment il faut faire. Et j'attends qu'elle me réponde, ah, vous êtes formidable, monsieur Gaston.
Est-ce qu'elle a aussi une grande queue de cheval, comme Max, des grosses lunettes ?
Non, pas vraiment. Mais la dernière fois que je l'ai vue, une des instrumentistes préférées, elle avait quand quand même tatoué sur ses paupières « I love you » comme dans,
oh, c'est
comme,
joli.
Comme dans « Les aventuriers et l'arche perdue ».
Ah, c'est beau, c'est beau. Alors, en revenant un petit peu à l'école, vos matières préférées, c'était les maths, le français, les sciences, j'imagine.
Les sciences, oui, oui, parce que dès le départ, je savais que je ferais médecine.
Ah, comment? Ben, tout petit garçon?
Ben, nous étions dans une famille où, dès le départ, étant l'aîné, on m'a dit, toi, tu seras médecin. Et j'étais tout à fait conventionnel. J'ai pas essayé de faire autre chose.
Dans votre famille, ils étaient des médecins, vos parents?
Oui, c'était des... Non. Ils étaient militaires de l'armée française.
Ah.
Nous, on a été rapatriés en 1963 parce qu'on vivait en Algérie. Mes parents étaient français d'Afrique du Nord, d'une famille juive, bien évidemment. Et il est classique dans les familles juives d'avoir au moins un fils médecin. Quoi.
Donc vous rêviez déjà à ça tout petit?
J'étais prédestiné à ça. Après, je me suis dit, bon, faire médecine pour médecine, autant faire une des choses les plus difficiles, comme avait dit mon beau-père, c'est-à-dire faire chirurgie.
Ah oui, voilà. Ouais. On en parlera un peu plus loin. Moi, j'avais juste envie, vous n'aviez pas envie de faire ce, dans vos rêves, d'être policier-pompier ou alors pilote d'hélicoptère, comédien, donc vous êtes devenu docteur.
Oui, docteur. Puis à un moment donné, je me suis beaucoup intéressé à la créativité, à la publicité, j'étais fasciné par ça.
Ah oui.
Mais on m'a remis dans le droit chemin.
Les slogans, vous voulez dire?
Les slogans, oui, j'adorais ça.
Ouais, dans les années 80, ils ont explosé.
Oui, oui, Jacques Séguéla, je connaissais par cœur. Étienne Châtillet, c'est ça?
Aussi, oui. Ouais.
J'étais très féru de pubs et de slogans que je garde encore. Parce
Ardisson, on avait fait une très belle avec, ouais, les portes, la paire.
Ouais,
il
n'y, oui,
en a,
absolument,
pas deux. Ça, ouais. C'était extraordinaire.
Absolument.
C'est ça, ce qu'il a fait connaître.
Hein. Le plus intéressant des slogans, c'était Étienne Châtillet qui avait fait pour cette marque de chaussures où il avait écrit « Intéressant, le béton devient mou ».
Ah oui, c'est bien, je me souviens.
Ça, c'était extraordinaire. C'était quelle marque déjà? Je me souviens plus.
Eram, peut-être.
Eram,
je sais pas. Ouais, Eram.
Intéressant,
ouais,
le béton, ouais, devient mou.
Ouais,
et
ouais,
il y avait la trace du pied qui s'enfonçait dans le trottoir.
Oui, c'est ça, je me souviens.
Ils étaient quand même sacrément.
C'était doué. Est-ce que vous vous souvenez de cette publicité qui était dans. Je travaillais à Paris à l'époque, à France 2. Vous vous souvenez de cette publicité qui avait partout placardé Demain, j'enlève le bas. Ça
alors,
vous parle?
Ça, c'est extraordinaire.
Vous vous souvenez de ça?
Alors, justement, j'en reviens au bloc opératoire lorsque je parle de Myriam, elles n'ont plus l'âge de Myriam, mais Myriam était extraordinaire. J'enlève le haut, j'enlève le bas. C'est elle qui a inventé le teasing.
C'était quasiment un feuilleton.
Ouais, ouais.
Quoi.
Avenir publicité.
Ah, c'était extraordinaire.
Avenir publicité qui tient ses promesses.
Qui tient ses promesses, ouais, c'est beau ça. Alors docteur, c'est vrai que votre métier, on peut dire c'est une vocation.
Oui, c'est une vocation, c'est un travail manuel, un travail intellectuel, c'est quelque chose qui nécessite beaucoup d'apprentissage, de compagnonnage, de réflexion. Et c'est la même façon qu'un violoncelliste apprend le violoncelle. Quoi.
Oui, c'est ça.
Au bout de 10 000 heures d'apprentissage, vous savez à peu près tenir un bistouri, à peu près tenir un instrument chirurgical. Le plus important, c'est la légèreté de la main. Et après, il faut acquérir la connaissance,
la souplesse,
qui permet ensuite de faire le geste juste. Et ensuite d'assumer les suites opératoires.
Quand vous avez choisi médecine, c'est un peu une manière d'accompagner la vie humaine, cette vie fragile et précieuse?
Ben oui, ça donne aussi une bonne raison de se lever tous les matins, comme disait Marc Aurèle.
Très tôt?
On se lève très tôt, oui. Et Marc Aurèle, dans ses pensées pour soi-même, disait « il faut trouver une bonne raison de se lever le matin ». Le fait d'aller au bloc opératoire, c'est une bonne raison, ou d'aller voir les patients, ou de les visiter, en sachant que derrière ce bloc, il y a toute une équipe qui s'est levée déjà avant vous, pour vous préparer un petit peu le terrain. Donc vous êtes obligé d'être à l'heure.
Ça, je comprends. Alors, on papote, et c'est très intéressant. On va se reposer un tout petit peu les oreilles et on écoute un peu de piano, ce que vous m'avez demandé. Vas-y voir, Thomas, mets-nous voir cette belle musiquette-là. Docteur, quelques touches de piano, de la contrebasse, et là aussi un doigté, les mains, c'est précieux.
Il n'y a pas que ça, je vais vous dire pourquoi j'aime les trios. Dans les trios, vous avez la basse, vous avez la batterie et vous avez le piano. c'est ce qu'entend le bébé dans le ventre de sa mère.
Oh.
Le bébé
ah,
entend oui. la voix de sa mère, c'est la mélodie, le piano. Il entend le bruit du cœur, c'est la basse, c'est la batterie. Et il entend la voix du père, c'est la basse. Voilà. Et vous, dans un trio, vous retrouvez la vie fétale, en quelque sorte. Quand vous avez la chance de tomber sur Timbal Trio, sur Elf, sur Gogo Pingouin, vous retrouvez la vie fétale et oui, aquatique. J'ai...
Et alors, vous pensez que votre maman, déjà, écoutait cette musique, c'est pour ça que vous y êtes attaché?
Ah, peut-être.
Vous pensez
peut-être,
que ouais, dans le ventre
plutôt,
de...
Oui. Elle écoutait plutôt les chanteuses de sa génération, Dalida,
ah, oui.
Bambino...
Ah, oh, c'était beau, ça, c'est beau.
Dario Moreno, mais moi, j'ai grandi avec ça. Après, j'ai grandi avec Charles Aznavour, que mes tantes écoutaient et que je n'ai pas compris tout de suite, mais que je comprends beaucoup mieux, parce que c'est une écriture absolument magnifique. Et puis après, il faut aussi progresser. Vous avez le jazz rock. Vous avez
oui, c'est ça. Vous parliez à l'instant de Dalida. J'ai eu la chance de la rencontrer plusieurs fois à l'Élysée parce qu'elle était amie avec, elle était même amie avec Mitterrand ou avec Chirac. Et un jour, je l'avais rencontrée et on s'était parlé un petit peu à l'Élysée. Elle me disait, moi, vous aviez une belle voix. Alors, elle me dit, oui, ma voix, elle porte, mais elle rapporte aussi.
Ah, oui, c'est
donc,
sûr.
Vous voyez, c'était...
Elle a fait de très, très belles chansons.
Ouais. Absolument.
Et la chanson Parole est absolument magnifique.
Ah, elle est géniale. Ouais. Avec Alain Delon, quand, elle aurait, quand il y aurait, c'est vraiment extraordinaire. Ouais. Alors, docteur, vous faites un moment une spécialisation, vous avez envie de devenir urologue, c'est ça?
D'abord chirurgien, puis après, quand vous êtes chirurgien, vous passez dans les différents services de spécialité. J'ai vu de l'orthopédie, j'ai vu de la chirurgie digestive, j'ai vu des urgences. Et après, c'est une question de rencontre, quoi. J'ai eu la chance de rencontrer le professeur Bollack, qui m'a accueilli dans son service. Et la grande, grande, grande chance de rencontrer le professeur Jacques Saint-Calbre, qui était le patron de la transplantation hépatique et rénale à l'époque. C'est lui qui a introduit. Et quand vous avez à côté de vous un chirurgien comme Jacques Saint-Calbre, vous progressez à la vitesse grand V en chirurgie. La chirurgie, c'est un compagnonnage. Vous ne pouvez pas l'apprendre dans les livres, vous ne pouvez pas l'apprendre en vidéocassette. Vous ne pouvez l'apprendre que sur le terrain. Vous voyez les gestes, vous comprenez les problèmes, et quand vous ne pouvez pas opérer, bah vous allez regarder opérer les autres. Vous avez un petit... Un jour, Jacques Saint-Calbre m'a dit, le meilleur livre de chirurgie, c'est celui que tu écris le soir en rentrant chez toi.
Ah ouais.
Les autres livres ne servent à rien. Et effectivement, j'ai suivi son conseil, ce qui m'a permis de progresser.
Et en fait, vous me disiez à l'instant, vous aviez opéré pas que la vessie, vous aviez opéré plein d'autres choses.
Non, parce que vous devez apprendre d'abord la chirurgie générale et après vous spécialiser dans un appareil particulier. Alors, il y a l'appareil mou, l'appareil dur, il y a les orthopédistes et les viscéraux. Et dans les viscéraux, vous avez aussi l'appareil urologique qui concerne le rein, les uretères, la vessie. Et chez l'homme, l'appareil génital masculin. Mais pour ce qui est des reins, de la vessie, des uretères, c'est mixte. Hein. On s'occupe d'obstruction, on s'occupe de cancérisation, on s'occupe de destruction. On essaye au maximum de garder cet appareil fonctionnel. On a deux reins, il faut essayer d'être le plus épargnant possible et les techniques actuelles nous permettent de faire de très très belles conservations.
Quel est l'organe qui était le plus facile ou le plus difficile à opérer? Le cœur, le poumon, je ne sais pas moi.
Le cœur, je n'ai pas vraiment fait. On fait chaque organe à sa spécificité. Et chaque chirurgien a son pôle d'excellence. Il n'y a pas d'organe plus facile ou plus difficile.
Et c'est comment de voir le corps de l'intérieur, de le toucher, de regarder, voilà, le corps humain, c'est quand même quelque chose de magique, non?
C'est un temple qu'il faut respecter. C'est un temple dans lequel on est autorisé à entrer, mais qu'il faut respecter. C'est pour ça qu'on ne rentre jamais dans une intervention sans avoir fait une petite prière intérieure avant.
Qu'on a un peu peur, on a des angoisses
avant
d'y aller.
Non, c'est pas avoir peur, parce que vous avez suffisamment de techniques, que vous en avez fait tellement que vous savez. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est démarrer, c'est comme en amour, c'est comme la première fois.
Oh, c'est beau.
Vous devez démarrer une intervention comme si c'était chaque fois la première fois. Parce que quand vous y allez la fleur au fusil, c'est là que vous avez
des problèmes.
Des problèmes. Si vous y allez de façon un petit peu décontractée, un petit peu en pensant à autre chose, c'est là que vous avez des problèmes.
On ne peut pas penser à autre chose.
Chaque cas est un cas particulier.
Ah, ouais.
Donc quand vous êtes concentré, vous êtes concentré. Mais par contre, chaque intervention comme si c'était la première. C'est pour ça que quand il s'agit d'une incision ou quoi que ce soit, je dessine toujours l'incision comme si c'était la première.
Ah, vous le tracez d'abord comme...
Il faut tracer. C'est un geste rituel et le rituel vous remet dans l'axe.
Ah oui. Alors on travaille aussi, vous parlez à l'instant, avec son intelligence. Hein. Il n'y a pas que...
Alors justement, c'est le même principe que l'alpiniste qui a escaladé, qui a fait plusieurs varapes, qui a fait... Si vous êtes un bon alpiniste, vous connaissez les difficultés, vous avez déjà expérimenté ça, vous avez la théorie, vous avez la pratique, donc vous savez déjà... vous travaillez souvent avec... ça, c'est professeur Daniel Jek qui m'avait appris ça. Feu, le professeur Jek, qui était un excellent chirurgien digestif du service du professeur Hollander, il me dit qu'il faut toujours travailler avec un temps d'avance. C'est-à-dire, quand vous ouvrez, il faut savoir comment vous allez fermer. Et un premier violon de l'Opéra de Vienne, qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas longtemps, m'a dit « Moi, j'ai commencé à prendre ma retraite quand je lisais une partition et que, par définition, un violoniste a deux mesures d'avance. » Le jour où je me suis rendu compte que j'avais plus qu'une mesure d'avance, j'ai dit, il faut que je m'arrête.
Wow. Ouais.
Donc la chirurgie, c'est aussi ça. Vous devez intervenir dans un temple, vous devez savoir bien avoir préparé votre trajet, vous devez respecter le temple, et vous devez savoir comment vous en sortir en faisant le minimum de dégâts et en rangeant tout avant d'en sortir.
Il ne faut rien oublier, quoi. Ça, c'est sûr.
Oui, surtout rien oublier, mais vous savez, heureusement...
Vous comptez, par exemple...
Actuellement, on a des procédures qui sont dérivées de l'aéronautique, et on fait ce qu'on appelle, par exemple, la checklist post-opératoire, préopératoire, la checklist post-opératoire. Il y a systématiquement des comptes. Et alors, il y a deux périodes qui sont absolument indispensables en chirurgie. Enfin, quand on aborde une intervention, c'est la règle du cockpit stérile. C'est dérivé des procédures aéronautiques parce qu'on s'est rendu compte que les crashs, c'est au décollage et à l'atterrissage.
Ah oui.
Et en fait, il est interdit. On s'est rendu compte, quand on reprenait les boîtes noires après les crashs, on s'est rendu compte que les pilotes parlaient de leur week-end, de leur truc, et compagnie. Ouais. Ils n'étaient pas concentrés. Donc, j'ai l'habitude de dire, lorsque j'interviens, ici, c'est un temple zen, ni ail ni alcool. Un temple zen, ça veut dire silence, silence absolu et recueillement.
Et pourtant, quand vous opérez, vous êtes un des responsables de l'opération.
Oui.
Vous avez des instrumentistes à côté de vous. Je pense qu'il y a, c'est avec le regard, c'est le silence en fait,
qui fait que ça avance. Alors, si vous avez la chance d'avoir, et la plupart du temps, on a d'excellentes instrumentistes en face de nous, c'est même pas des infirmières, c'est des collaboratrices. Et une chose que j'ai appris avec l'expérience, c'est qu'il faut les écouter. D'abord parce qu'elles ont de l'expérience, et surtout lorsque vous intervenez, vous rentrez dans un processus qui s'appelle la tunnelisation. Et si vous vous laissez entraîner dans une tunnelisation parce que brutalement vient une hémorragie, une complication, quelque chose que vous ne connaissez pas, et que vous vous enferrez dans cette stratégie, c'est là que les risques surviennent. Donc j'ai appris à l'humilité qui consiste à écouter l'équipe qui m'entoure.
Ça veut dire qu'il y a beaucoup de respect avec les gens avec qui vous travaillez.
Absolument.
Il y a du respect.
Oui, absolument.
Il
n'y
a pas un big boss et puis les petites mains.
L'ère des mandarins qui se croient tout puissants.
C'était un peu comme ça il y a quelques années encore.
Je déteste le tutoiement au bloc opératoire. Le vous permet de garder une certaine distance.
Mais vous avez bien raison.
Ouais. Et je déteste le tutoiement. Et en fait, je pense que mes collaboratrices me le rendent bien. Voilà, je sais que lorsque on démarre une intervention, elles sont confiantes. Elles savent que ça devrait bien se passer. Et si jamais il y a un incident, à ce moment-là, elles savent qu'elles ont leur mot à dire aussi, parce que.
Et vous les écoutez.
Oui, elles savent que
dans ce silence qui est au bloc opératoire.
Absolument. J'aime pas la chirurgie spectacle où on entend la radio, où on entend la musique, où les gens rentrent et sortent. C'est un temple, il faut le respecter.
Et en fait, il y a le patient.
Ouais.
Et
je vous cache pas que ayant une épouse qui dans les premières années travaillait à FIP, je sonorisais régulièrement la salle d'opération.
La salle d'opération.
Et elle se permettait quelques private jokes.
D'ailleurs, elle est à côté de nous. Véronique, on se connaît un peu de la télé, de France 3.
Corinne, excusez-moi, je suis un peu
impressionné aujourd'hui. Mais en fait, c'est vrai que comment c'est être la femme d'un chirurgien?
C'est pas facile. C'est pas facile parce que c'est des métiers qui demandent de s'investir à 100%. Donc, quand on a une vie familiale, des enfants, c'est pas toujours facile. En fin de compte, on se rend compte que la priorité, c'est les malades. Ouais. C'est les malades, et même pour nous, ce sont les malades. Et je sais qu'au début, ça a été un petit peu difficile, parce que...
Beaucoup d'absences.
Et au début, ça a été un petit peu difficile. Et puis un jour, il m'a dit cette phrase, parce qu'il faut savoir quand même que mon mari, quand il passe 7 jours sur 7, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, deux fois plus le week-end, samedi matin, samedi soir.
Visiter les patients.
Voilà. Ouais. Et alors, je lui ai dit, mais tu n'as pas besoin de passer deux fois dans la journée. Et il dit, le week-end, il y a moins de personnel, il faut être deux fois plus vigilant.
Quelle vocation.
Aussi, une phrase qui a eu en tout cas une répercussion sur moi, c'est quand il m'a dit, si ton père était hospitalisé, est-ce que tu n'aimerais pas qu'il voie le médecin ?
Qu'il voie le médecin,
voilà. Donc voilà, on fait avec.
Et en fait, j'entends cette voix de radio, ça ne vous manque pas la radio ?
Ah si, des fois un peu, des fois un peu. C'est sûr que j'ai passé des années...
C'était une belle période, les FIPET.
Hein. Extraordinaire. Chouette, j'aimais beaucoup ce travail. Bon, après, vous savez, il faut aussi changer, évoluer, goûter à d'autres choses, voilà.
Je vous inviterai prochainement, vous viendrez.
Avec grand plaisir.
Si vous êtes d'accord, monsieur, docteur, que votre femme viendra. On en reparlera. Je n'ai
pas besoin de l'autorisation de monsieur pour venir.
Non, c'est une petite boutade. Et alors, on va s'écouter une petite musiquette, un trio, on en parlait tout à l'heure. Oui. Vas-y, mets-nous voir un peu la musiquette pour reposer les oreilles. Alors, je vois que vous aimez toujours autant la musique. Hein. Ce trio vous convient ?
Absolument, oui. Moi, j'ai découvert le jazz nordique. Alors, vous savez, les plateformes ne sont pas inintéressantes. Et Spotify m'a fait découvrir le jazz nordique, Tingvall Trio, Elf Trio. Et j'aime beaucoup.
Est-ce que, un petit peu, on arrive vers la fin de cette émission. J'ai quand même envie de vous poser quelques petites questions. Très rapidement, comme ça, en vous posant une question et vous répondre avec un seul mot, si vous le pouvez, docteur.
Oui.
Alors, quel est votre mot préféré, docteur ?
Amour.
Un mot ? L'amour, hein, c'est beau, ouais. Et quel est celui que vous détestez le plus ?
Incompétence.
Incompétence, c'est beau. Et quel est votre arbre préféré ?
Arbre ?
Ouais.
J'aime bien les cerisiers en fleurs.
Ah, c'est beau.
Ça me nous ramène au Japon.
Au Japon.
De temps en temps, j'ai envie de prendre mon kimono, surtout qu'on a eu ce printemps quelque chose d'extraordinaire éclosion. Et magnolia aussi.
Magnolia, c'est très beau aussi. Et votre fleur, donc c'est la magnolia.
Magnolia. Oui.
Et à quelle époque auriez-vous aimé vivre, docteur ?
Non, moi j'aime vivre à toutes les époques.
Maintenant.
Ceci étant, j'ai quand même une nostalgie des années 80 qui étaient des années insouciantes, c'est ce qu'on dit souvent avec mon épouse. La musique était gaie, les films étaient gaies.
On avait des chemises à fleurs, on avait des pattes d'éléphant.
Oui, voilà, et puis alors qu'il n'y avait pas toute cette infobésité qui nous stresse toute la journée. Quoi.
Et quel est votre héros préféré ?
Alors... J'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un, c'est le designer Philippe Starck.
Ah ouais, ouais.
J'aime beaucoup, j'aime ses créations, il a créé 10 000 objets, j'ai tous ses livres, j'ai annoté ses livres.
Ah ouais, waouh.
C'est le premier qui me vient à l'esprit parce que Philippe Starck pour moi est un modèle à suivre de créativité.
Et quel est votre plat préféré
difficile. J'ai pas de. J'ai
vous,
pas de
vous aimez tout.
Oui, j'aime tout. J'aime
vous aimez tout.
Tout.
Et vous êtes plus alsacien que marseillais.
Ah, maintenant, je suis devenu totalement alsacien. Je veux dire, moi, j'estime que à Marseille, il y a pas vraiment de gastronomie. Cette fameuse bouillabaisse,
oui.
Ces bourrigues,
l'ail.
Ouais. Par contre, j'ai découvert la gastronomie alsacienne dans toute sa splendeur. J'ai eu la chance de bien connaître Emil Jung,
ah,
le crocodile.
Oui, j'ai bien connu.
D'être ami avec Monique Jung aussi. Et on est extrêmement gâtés en,
oui,
en Alsace.
Vrai. Ouais, ouais.
On est vraiment.
Et qu'est-ce qui vous brise le cœur, docteur ?
L'imbécilité.
Et alors, quel est le parfum de votre. Et ou la saveur de votre enfance que vous n'oublierez jamais, jamais, jamais ?
Je dirais l'odeur du jasmin.
Ah.
Oui,
ouais, c'est
oui,
beau.
Que j'ai découvert, peut-être pas quand j'étais enfant, mais quand j'ai rencontré mon épouse, on avait fait un voyage en Tunisie, et c'est une odeur,
ah, c'est vrai.
C'est une odeur,
des
c'est une odeur que je ne connaissais pas et que j'ai découvert.
Et si demain vous gagnez à l'euro-million, vous faites quoi des pépettes ?
Oui, alors d'abord j'essaierai de sécuriser mes trois enfants, et ensuite bien évidemment... Il faut aider.
Il faut aider l'autre
en priorité.
Racontez-moi un peu, docteur, comment ça se passe quand les gens sont dans votre salle d'attente et vous les appelez après l'autre ouais. Ils sont comment, vos patients?
Alors moi, mes patients, ils ont une tranche d'âge... quand j'ai commencé, ils avaient une tranche d'âge entre 60 et 70 ans. Maintenant, ils ont aussi une tranche d'âge qui va jusqu'à 85. La semaine dernière, j'ai opéré un patient de 19 ans, qui, le 6 juin, aura 100 ans. Alors, les patients... Les Alsaciens, j'ai fini par les connaître. D'abord, ils sont extrêmement respectueux du docteur. Lorsqu'ils arrivent, j'ai observé qu'ils étaient toujours soignés.
Bien habillés, vous voulez dire, endimanchés.
Extrêmement endimanché.
Avec les chaussures cirées.
Les souliers cirés. Parce que quand vous dites souliers, vous savez à peu près à quelle tranche d'âge vous adressez. Ils sentent bon le savon frais. Ils se laissent examiner avec confiance. Alors souvent, au début, ils parlaient... Enfin, moi, je parlais pas très... Je connaissais pas le dialecte. Et donc, ils viennent toujours avec un traducteur, traductrice, fille ou mère ou femme. Jusqu'au moment où j'essayais quand même de me mettre à leur portée. Et à ce moment-là, ils faisaient l'effort ensuite de me parler en dehors du dialecte.
Et vous parlez quoi avec, par exemple, si vous, en dialecte...
À la longue,
j'ai appris... Ça avec docteur.
À la longue, j'ai appris l'alsacien urologique. Hein, wie viel mal pipis machen, wo morsve, do,
Prenz, esbrant, ça brûle.
Esbrant, bissele, wir müssen operiert. Ven, am Montag, es ist nicht schlimm.
Ah, c'est bien.
Et alors, ils me disent, yo, docteur, comme vous y allez.
C'est génial.
Ils sont mignons.
Ouais, c'est sympa. Je vois que vous êtes un bon docteur, un grand docteur. Et dites-moi, comment on se sent en Alsace maintenant, aujourd'hui, cette Alsace?
Totalement adopté, totalement intégré, totalement... Quand vous êtes Marseillais et que vous avez l'habitude de l'agitation du Sud... Vous arrivez dans une, justement, avenue des Vosges, totalement déserte, la pluie, un dimanche après-midi, vous n'avez qu'une envie, c'est rentrer chez vous.
Ouais.
Mais quand vous avez goûté la tarte au quetch, vous dites que ces gens-là ne sont pas foncièrement mauvais.
Ouais, c'est vrai.
Et je me suis rendu compte à quel point l'Alsace est riche, et en saison, en gastronomie, en culture, en humanité, et je me sens totalement adopté par l'Alsace.
Dans quelques jours, vous partez à la retraite. Elle est préparée, cette retraite.
Oui, je vais m'arrêter. Je vais arrêter de consulter. Je vais arrêter aussi d'opérer. Je vais voir ce que je vais faire plus tard. Bon, j'écris deux livres. Je fais des conférences.
Vous avez déjà un éditeur pour vos livres?
Je cherche
quelqu'un à vous proposer, peut-être.
Il y a un livre qui parle de santé masculine et il y a un livre qui parle d'enseignement pour les infirmières.
Ah, c'est sympa, ça. En tout cas, docteur, j'ai passé un très bon moment.
Je vous remercie.
Merci aussi à votre épouse d'être venue.
Merci à vous.
Et en fait, je vous invite très prochainement, promis.
Avec grand plaisir.
Merci, docteur.
C'est moi qui vous remercie
à très
pour
bientôt.
Votre invitation.
C'est un plaisir partagé.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.